France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian à l'aume à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Actip Sofiane à la console. On va déguster, me semble-t-il, dans cette émission.
Oh, j'ai mal. Non, c'est pas mes soeurs, Mathieu. Fais doucement.
Laisse-toi aller, mais.
Ne sois pas honte, puis. Oh, c'est horrible.
Ça te soulage. Ça décongestionne.
Pousse. Aide.
Voilà du bon purée.
De la bonne purée, c'est féminin.
Ah oui, c'est pour le moment. Ouais.
Philippe.
Tu en veux?
Pour la sorte Bel Air.
Non.
Michel.
Non.
Oui, fait. Est-ce que tu dois?
Tu as tort, Michel.
Si, tu devrais en prendre un peu, tu sais.
Non.
Écoute, ça va pas être
bon, ça. Non.
Ah. Hey, où sont la vaisselle? Andrea, tu en veux un peu?
Ah oui, Philippe, j'adore la purée.
Hein? Il manque un peu de beurre, Hugo.
Oui, j'allais faire exprès.
Ah,
oui, pourquoi? C'est une purée médicale.
Une purée médicale,
oui.
Je pense que tu es un Indien. À Bombay, un petit Indien, et que tu as faim. Et que tu as très faim. Si, tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges.
Extrait de La Grande Bouffe de Marco Ferreri avec Michel Piccoli, Philippe Noiret, Ugo Totnyazzi, Marcello Mastroianni et Andrea Ferréol dans cette scène.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
L'art des vivres, une philosophie du goût, c'est le titre du livre de Valentin Husson, paru aux Presses universitaires de France. Il est notre invité, ainsi que François-Régis Gaudry. Faut-il vous le présenter? Je crois bien que non. Il publie un nouveau livre, Recettes et Récits, Recettes et Récits, devrais-je dire, parce que c'est au pluriel, aux éditions Marabout. Valentin Husson, dans La Grande Bouffe, on a affaire là plutôt à des dévorateurs, à des gloutons, on n'est pas dans « on va déguster ».
Non, on n'est pas dans « on va déguster ». Dans le livre, par exemple, j'essaye de faire des distinctions sur les différents types de régimes alimentaires. Et la grande bouffe, ça correspond parfaitement à ce que j'appelle le jouisseur. Dans « on va déguster » de François-Régis Gaudry, on sera davantage sur le bon vivant. Mais le jouisseur, c'est précisément celui qui est dans l'illimité. Il n'y a pas de modération. Socrate disait « rien de trop et réjouis-toi ». Mais le jouisseur, comme tous ces acteurs de la grande bouffe, sont véritablement dans une jouissance de l'excès. Ils sont excessifs.
Alors, sans cuisine, il n'y a pas de philo. Et la philosophie première, écrivez-vous, c'est précisément la gastronomie.
Oui, alors ça, c'était un petit peu pour mettre les pieds dans le plat, pardon, de l'histoire de la philosophie. Dire que la gastronomie est la philosophie première, c'est dire au fond que ce qu'il y a de plus essentiel peut-être dans l'aventure humaine, c'est la maîtrise du feu, il y a 400 000 ans de cela, et le fait que à un moment donné, avec cette maîtrise du feu, on a pu cuire les viandes, changer le rapport calorique, et en sens là, changer véritablement notre cerveau, nos capacités physiques. Sans cela, il n'y aurait pas eu les capacités cognitives pour développer le langage, et sans langage, il n'y aurait pas eu de philosophie, de littérature. C'est en ce sens-là que j'entends que la gastronomie est la philosophie première.
Il y a une dimension ontologique dans l'acte de manger.
Il y a une dimension ontologique dans l'acte de manger, c'est-à-dire que, je vais citer l'allemand, je viens de Strasbourg, Der Mensch ist, was ist, disait Feuerbach. En allemand, il y a un petit jeu de mots qui est très plaisant. L'homme est ce qu'il mange. Et donc la dimension ontologique, c'est que véritablement, manger, ça dit quelque chose de notre rapport à l'autre, de notre rapport à notre classe sociale, de notre rapport à nous-mêmes aussi.
François-Régis Gaudry, il me semble que vous êtes mis à nu après ce que vient de dire Valentin Husson. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Au fond, les auditeurs savent qui vous êtes.
Absolument, mais j'adhère totalement à cette idée que ce qui nous constitue, ce qui nous fait dans la vie, ce qui nous construit, ce qui construit notre identité, c'est effectivement ce que l'on mange. A priori, on se dit que manger, c'est un acte qu'on commet trois fois par jour, c'est assez machinal, quotidien, banal, pourrait-on dire. Il y a une banalité dans le fait de manger. C'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi que beaucoup de philosophes se sont un peu méfiés de ces nourritures terrestres. Et en même temps, le discours sur ce que l'on mange, il est essentiel pour comprendre notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Quand je voyage, par exemple, manger, c'est évidemment une formidable grille de lecture. C'est une clé de compréhension. Lorsque vous allez aux Antilles et que vous découvrez le colombo, qui a priori, comme ça, n'a pas grand-chose à voir avec la cuisine créole, il s'agit évidemment de ce plat apporté par les coulisses qui ont servi, entre guillemets, de main-d'œuvre à partir des années 60, originaire du Pakistan ou du sous-continent indien, et qui arrive avec des épices dans leur bagages pour faire une manière de curry qui ensuite s'est enraciné évidemment dans les Antilles. Moi c'est ça que j'aime quand je voyage, c'est tous ces métissages, ces rencontres, la façon dont finalement les cuisines se croisent, s'hybrident.
Clé de compréhension et aussi langue maternelle, si je vous ai bien lu. Parce que vous parlez dans ce livre qui, je trouve, a un charme fou, Recettes et récits, donc, dans lequel finalement, en peu de mots, en assez peu de mots, dans des récits assez courts, vous vous dévoilez, plus que vous ne l'avez jamais fait, en tout cas, je ne dis pas beaucoup, mais plus qu'avant. Vous parlez notamment de votre grand-mère, Mamita. Vous parlez aussi de la cuisine de votre maman, qui cuisine comme on respire.
Oui, j'aime bien cette idée que ma mère cuisine comme elle respire, elle cuisine un peu sans réfléchir. Je l'ai beaucoup observé au fourneau, ainsi que ma grand-mère d'ailleurs, qui était d'origine corse et qui vivait dans un petit appartement à Bastia au-dessus du palais de justice. Elle avait des doigts tout crochus parce qu'elle était malheureusement atteinte d'arthrose, mais elle faisait preuve d'une précision exceptionnelle dans chacun de ses gestes. Et c'était cette cuisine naturelle comme un acte spontané, sans trop réfléchir, sans trop calculer, avec juste ce souci généreux de nourrir les siens comme une espèce de preuve d'amour. Alors j'enfile un peu des perles en disant ça, parce
oui,
que évidemment la cuisine c'est ça peut être un acte très égocentrique, parce qu'évidemment parfois ceux qui cuisinent réclament évidemment des compliments de la part de ceux qu'ils servent, mais quand même globalement c'est un acte par définition généreux, altruiste, tourné vers l'autre. Effectivement, les femmes de ma famille, mais je suis tellement pas le seul, c'est presque maintenant un cliché d'avoir comme ça dans un coin de sa tête le fantasme de cette grand-mère nourricière, aimante, bienveillante, enveloppante. Moi j'ai eu la chance de grandir sans trop enjoliver, je crois, la réalité. J'allais vraiment chez ma grand-mère et la première phrase, ou une des premières phrases qu'elle me disait, c'est « Oh, Tchétché », Tchétché étant le diminutif de Franché, qui veut dire François en Corse, « Qu'est-ce que tu veux manger ?» Il n'y a pas plus belle déclaration d'amour. Et je suis pas le seul dans ce cas-là, je crois même que ceux et celles qui nous écoutent se sentent forcément concernés par la question. Mais il est vrai qu'on est constitué de ces petits bouts de patrimoine que sont les recettes, qu'on trimballe comme ça, de
une
génération
recette,
en génération.
Histoire.
Ouais, c'est un petit leg, un petit bout de patrimoine. Mmh. C'est en plus quelque chose qui est à la fois très versatile, très fragile, très plastique, parce que ça se transforme, ça se transmet, mais ça se transporte, et puis ça fait des ricochets, une recette. Et en même temps, c'est solide en cela que ça produit de l'identité.
Valentin Husson, on peut être philosophe et aimer faire la cuisine, je crois que c'est votre cas.
Absolument, oui, je suis philosophe autant que faire se peut, et cuisinier autant que faire se peut. Pour rebondir à ce que disait François-Régis Gautry, on m'a demandé comment, en tant que philosophe, nous qui préférons les nourritures célestes aux nourritures terrestres, comment j'en suis venu à écrire un livre davantage sur le corps que sur l'esprit. Et je réponds toujours un peu de la manière dont disait François-Régis Gautry, c'est que moi j'ai grandi dans une maison familiale où mon arrière-grand-mère habitait au rez-de-chaussée, ma grand-mère au premier étage, et nous habitions au second étage. Donc moi quand je rentrais de l'école, j'avais les effluves de la cuisine de mon arrière-grand-mère.
Ça devait être génial.
Au premier étage, les arômes de la cuisine de ma grand-mère, et au second étage, j'entrais dans l'appartement et j'avais les odeurs de la cuisine de ma mère. Ça marque quelque chose tout de même du corps, et ça marque après quelque chose de l'esprit. Voilà comment on devient et philosophe et cuisinier.
Ça y est, comment on se remplit la panse et comment on pense la nourriture.
Waouh, bravo. Le sociologue Pierre Bourdieu, c'était dans Apostrophe, donc chez Bernard Pivot.
Quand nous mettons une cravate à pois, une cravate unie, quand nous achetons une Mercedes ou une de chevaux, nous nous identifions plus profondément à nos goûts, au fond, qu'à nos opinions. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions. Je me suis amusé un peu à décrire les goûts de ce que j'appelle la petite bourgeoisie nouvelle. Disons, culture libérée, libre, un peu avant-garde, etc. Bon. Alors je suis tombé sur un magazine qui s'appelle Catalogue des ressources. Alors, c'est un truc en trois volumes, fort cher, destiné aux jeunes gens qui veulent faire du ski de randonnée, de la roulotte, du ski hors piste, enfin tout ce qui est en marge, tout ce qui est nouveau, le style vert, randonnée verte, etc. Bon, toutes les choses qui sont mentionnées là-dedans vont très très bien ensemble. C'est-à-dire que le fait de préférer telle ou telle cuisine n'était pas sans rapport avec le fait de préférer telle ou telle musique. Goût bourgeois ancien, qui sont du côté du sobre, du raffiné, de la double négation, de la litote, du refus de l'épate, de l'étalage, etc. Bon. Alors là, on retrouvera tout un ensemble aussi de choses parfaitement cohérentes entre elles et tout à fait exclusives des préférences tout à fait voisines dans ces jeux où chacun se définit par rapport à celui qui est juste au-dessous. Bon. Hein. Il y a des renversements constants. Bon. Et par exemple, le fait de revenir aux blue jeans ou de revenir à des choses apparemment populaires change complètement de sens quand le oui est une non-nié, quand c'est une double négation. La deux chevaux de l'intellectuel n'a rien à voir avec la deux chevaux de l'ouvrier agricole. Je dis que les gens sont infiniment moins libres qu'ils ne croient.
Valentin Husson, on mange à son image, finalement ?
On mange à son image. Ce que dit Bourdieu, là, il le retranscrit dans un livre très beau et très fort qui s'appelle « La distinction ». Et ce que nous dit Bourdieu, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle le bon goût, ce n'est rien de plus que le dégoût que nous avons pour le goût des autres. C'est-à-dire que notre distinction de classe, c'est une distinction non seulement sociale de la catégorie socio-professionnelle, mais c'est une distinction au sens d'une distinction de l'élégance et du raffinement. C'est-à-dire qu'on affirme quelque chose de sa classe sociale en se distinguant par ses goûts vestimentaires, littéraires et naturellement les goûts aussi de gastronomiques.
Alors je vais vous poser une question bien plouque, est-ce que c'est genré la façon dont on se nourrit? Je dis ça parce que Bourdieu a dit aussi qu'il appartenait aux hommes de boire et de manger plus, sous-entendu que les femmes, et des nourritures plus fortes à leur image, précisément.
Absolument, et il fait une analyse dans la distinction que je trouve extrêmement féconde et intéressante. Il dit, très souvent dans les familles, on réserve la viande aux chefs de famille. Comme s'il y avait quelque chose dans la viande qui affirmait la chefferie du chef, comme dit Bourdieu. La cruauté de celui qui doit mener la meute familiale. Et il y aurait quelque chose, en fait, dans la viande, ce que Derrida appelait d'un mot. Alors là, bon, c'est très philosophique, le carnophalogocentrisme.
Là où est la viande, le masculin commande.
Absolument. Là où est la viande, le masculin commande. Et oui, donc il y a quelque chose qui est très genré dans la nourriture, bien sûr.
Mais, alors, je sais pas, François-Régis, ce que vous en pensez, si la cuisine des femmes... Vous dites dans votre livre que la cuisine des femmes, elle est avant tout nourricière. Mm-hmm. Et qu'il y a là une vérité culinaire. Et en même temps, on ne parle plus de cuisine de bonnes femmes, maintenant.
Et c'est tant mieux, même si moi, je me suis surpris à avoir utilisé à plusieurs reprises dans une vie passée, quand j'étais dans la presse écrite au magazine L'Express, cuisine de bonnes femmes, il m'arrivait de l'utiliser, mais c'était pas du tout péjoratif dans ma bouche. C'était au contraire même un sacré compliment. On en revient à cette idée de cuisiner comme on respire. La cuisine est de moins en moins genré, c'est une bonne nouvelle. Si on parlait de cuisine de femme ou de bonne femme, c'est qu'évidemment l'histoire, la sociologie leur ont attribué le rôle nourricier de faire la popote pour les autres, pour leur famille. Et heureusement, les frontières sont en train d'évoluer. Il y a de plus en plus d'hommes qui se mettent au fourneau. J'en suis peut-être une illustration d'ailleurs. C'est moi qui cuisine à la maison et en même temps, j'ai pas beaucoup de mérite parce que je suis dans la cuisine toute la journée.
On comprend votre femme qu'elle vous laisse cuisiner.
Bah ouais, même si, attention, hein, je lui laisse un peu de place de temps en temps.
Mais est-ce que vous lui laissez aussi les casseroles? C'est une question tout à fait indiscrète, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font la cuisine, qui en fichent partout, et qui vous laissent la cuisine dans un état pas possible.
Alto cliché, chère Patricia.
Alto cliché.
Je fais la vaisselle dûment et proprement, et je peux vous dire que ma cuisine, en plus, je suis même assez maniaque sur ce sujet. Et au même titre que désormais, il y a de plus en plus de femmes, et c'est une heureuse nouvelle, qui arrivent sur la scène gastronomique, avec des ambitions clairement affichées, une volonté d'aller chercher les étoiles et de faire ce que l'on pourrait appeler justement une cuisine un peu plus masculine selon les schémas anciens. C'est-à-dire que des femmes qui font une cuisine d'auteur, une cuisine qui montre peut-être un peu plus ses muscles, de quoi elle est capable, une cuisine un peu plus démonstrative, très axée également sur l'esthétique, les dressages assez spectaculaires, je crois que désormais, les choses se rééquilibrent dans la sphère privée comme dans la sphère publique des restaurants, et c'est une bonne nouvelle.
Mais Valentin Husson, le régime omnivore, donc carnivore, ça vous l'expliquez très bien dans votre essai, il est déterminé par la théologie.
Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que l'essor du monothéisme a, je dirais, constitué le sacrifice animal comme constitutif de notre rapport au sacré. Et aujourd'hui, on voit bien que le sacrifice animal n'a plus le sens qu'il avait lors lorsque le monothéisme avait une sorte d'hégémonie qu'il n'a plus dans le nord de l'Europe. Le christianisme est en perte de vitesse, l'islam et le judaïsme ont encore une dynamique. Mais à partir du moment où le sacrifice animal a disparu, toute mort d'un animal est une mort pour rien. C'est un mourir pour rien, si je puis dire, ou un souffrir pour rien. Et Bentham disait au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, dans le contre-coup de la Révolution française, que la question qu'il fallait poser à propos des animaux, c'est pas est-ce qu'ils ont une raison ou est-ce qu'ils ont une morale, c'est est-ce qu'ils souffrent. Et la question principale à propos du véganisme, c'est celle-ci. Est-ce que les animaux souffrent et est-ce que à cette condition, nous pouvons encore manger de la chair animale? Et en effet, quand je dis que le véganisme dans le livre est le régime alimentaire de la mort de Dieu, c'est que les véganes comprennent très bien que le sacrifice animal n'a plus aucun sens et que les abattoirs, c'est véritablement des lieux où les animaux meurent pour rien.
Mais vous parliez tout à l'heure de votre famille, notamment votre grand-mère, et vous racontez qu'elle tuait elle-même les poulets, les lapins qu'elle allait vous cuisiner.
Absolument, mais
ça change la donne.
Absolument. Dans un abattoir, la mort est insignifiante et anonyme. Lorsqu'on élevait un lapin, lorsqu'on élevait une poule ou un coq, et qu'on le tuait soi-même, il y avait, si j'ose dire, une sorte de respect pour l'animal qu'il n'y a plus dans l'anonymat des abattoirs. Ça fait une grande différence. Pour moi, ça fait une grande différence.
Pour vous aussi, François-Régis Gaudry ?
Évidemment, mais je crois qu'on en est arrivé précisément là, au XXe siècle, parce que l'apparition, dans les années 50-60, de l'élevage intensif, notamment l'élevage bovin, il fallait manger beaucoup de viande au sortir de la guerre, après avoir connu des pénuries et des disettes, ben c'est le résultat aussi de ce productivisme agricole qui finalement a déconnecté le citadin des réalités rurales, en fait. L'idée, effectivement, que on tuait l'animal, mais qu'en même temps on le respectait, parce qu'on mangeait en plus l'intégralité de sa chair et de ses protéines. Donc en fait, on ne gaspillait rien sur une carcasse. Moi, j'ai vu dans ma famille corse des tue-cochons. C'est pas très agréable à voir, et honnêtement, c'est pas un spectacle que je recommande à qui que ce soit.
Mais, ça pleure, un cochon.
On respectait le cochon dans le sens où on disait que tout était bon dans le cochon et qu'on allait jusqu'à déguster son sang sous forme de boudin. Aujourd'hui, évidemment, avec notamment aussi l'apparition des animaux de compagnie, on est dans cette espèce d'hypocrisie où on continue à manger de la viande, mais on jette une espèce de voile pudique sur la réalité qu'il y a en amont, qui est la réalité de la mort de l'animal. Alors, c'est un vaste débat. J'avoue que moi-même, j'ai un peu de mal à me positionner. J'ai un peu comme tout le monde, réduit
votre consommation de viande.
Ma consommation de viande, je serais ce qu'on pourrait appeler un flexitarien, mais si on en est arrivé là, c'est pas par hasard.
C'est vous qui allez expliquer ce que c'est que Slow Food d'Alain Bachung et Aston Villa. C'est un hommage.
Oui, alors ça, c'est un joli projet musical mené par le groupe de rock français Aston Villa dans les années 90, qui ont eu la bonne idée de interpréter dans une très jolie balade un menu du chef 3 étoiles Pierre Gagnaire. Pierre Gagnaire étant évidemment ce maestro du Balzac à Paris.
Bœuf, araignée de mer et caviar, royal d'araignée de mer, cœur de filet de bœuf de Salers, au caviar, au cierre. Petite quenelle au caviar pressé, galette de blé noir au navet blanc, millefeuille croustillant au château Climas, 1995, pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuil et miel d'arbousier, une déclinaison d'asperges vertes et blanche. Le chevreau, pièce de chevreau rôti, feu d'enfer, abats grillés, jeunes fenouilles et radis glacés en aigre doux, caillette aux olives noires de Luc, cannelée à la pimpronelle et fromage de chèvre frais agrémenté d'une pâte de piment Nora. L'agneau, hailleton de l'Aveyron, sel poêlé, à l'origan, carré frotté d'un cahier de brebis en tandoori et timbales de riz à l'oseille pourpre. Escargot, petit gris, sauvage, lié d'un pesto de cerfeuil, feuilles cigarettes de chou Shanghai, panisse, deux personnes.
Valentin Husson et François-Régis Gaudry sont les invités de leur philo. Valentin Husson pour son livre « L'art des vivres, une philosophie du goût » et François-Régis Gaudry pour « Recettes et récits ». Les meilleures recettes sont celles qui se partagent. Luc Ferry qui nous parle de Kant.
Au fond, ce qu'il va dire, c'est que le beau, et là je pense qu'il touche quelque chose qui est totalement génial et qui est absolument vrai à mes yeux, mais bon, chacun en fera ce qu'il souhaite. Il va dire, et c'est là le point de départ de toute la critique de la faculté de juger, le beau, ça n'est ni le vrai, ni l'agréable, ni l'un, ni l'autre. C'est justement quelque chose qui est à la charnière des deux et qui n'est pas objet ni de démonstration, ni pour autant réductible à l'art culinaire. Et c'est ce qu'il va appeler l'antinomie du goût. Qu'est-ce que c'est que l'antinomie du goût ? Eh bien, l'antinomie du goût, c'est entre justement les classiques d'un côté qui disent il y a une science du beau et par conséquent, il n'y a qu'un seul et unique bon goût, ou autrement dit, on peut démontrer scientifiquement qu'une chose est belle ou qu'elle est laide, et ça ne se discute pas. C'est une démonstration scientifique qui est aussi certaine qu'une démonstration mathématique.
Valentin Husson, que pensez-vous de ce que Kant a pensé ?
Ce que Kant pense dans la critique de la faculté du jugement, vous savez, Kant c'est un philosophe allemand, et par conséquent c'est un philosophe qui est très abstrait. Il s'en voulait beaucoup de ne pas écrire aussi bien que Rousseau. Et donc, lorsqu'on lit Kant, il faut être un peu armé théoriquement. Et lorsqu'il aborde la question de l'agréable et du bon, voilà-t-il pas qu'il utilise pour une fois un exemple, lui qui n'en utilise jamais, et il parle du vin des Canaries. Le vin des Canaries, pour lui, ça relève de l'agréable, et l'agréable est purement subjectif. On ne peut pas, à l'inverse du beau, le partager. Chez Kant, le beau, il est universellement en droit partageable. C'est-à-dire, si on voit une œuvre d'art, on peut se tourner vers la personne qui nous accompagne en disant « Regarde comme c'est beau !» On suppose que le beau est universel. Pour lui, l'agréable est totalement subjectif. Ça voudrait dire qu'à une table, on ne peut pas dire à son convive ou à son camarade de table « Tu goûtes comme c'est bon, ou tu sens comme ce vin-là est agréable !» Il y a par conséquent, et je le dis dans le livre, pour moi quelque chose de... Non, c'est pas possible. L'agréable pour moi, c'est comme le beau chez Kant. Il y a quelque chose qui, en droit, est universellement partageable.
Ah, le philosophe épicurien. Mais c'est ce qui permet d'ailleurs de faire la distinction entre, et vous posez la question dans votre essai, la distinction entre l'art et l'artisanat. Est-ce que la cuisine, alors qu'elle soit de la haute cuisine étoilée, ou bien même la cuisine de ma grand-mère Mamita, est-ce... un artisanat, dans le sens où c'est la répétition d'un certain geste placé de manière très précise pour obtenir à peu près le même résultat, ou est-ce de l'art, c'est-à-dire est-ce de la production de beauté, en fait ?
Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante, c'est une question qu'on pose toujours à propos de la gastronomie. Je crois que c'est les deux. Je crois que c'est un artisanat, c'est-à-dire que c'est un savoir-faire qui se transmet. Quand on fait un apprentissage en cuisine, il faut avoir les bases, c'est-à-dire faut connaître le guide d'Escoffier, il faut savoir comment on fait un fond, une sauce, etc.
Et puis, il faut connaître le nom des instruments, parce que si le chef vous demande de lui passer que vous ne savez pas à quoi ça correspond...
Évidemment.
Absolument, il faut connaître le nom des instruments aussi. Mais je crois que, même si c'est un artisanat, ça peut être considéré comme un art. Quand on voit l'innovation, la création, on parlait de Pierre Gagnaire, on peut parler d'autres, Alain Passard, j'ai eu la chance de manger chez Jérôme Banquetel, il y a tout de même une prise en compte du savoir-faire, un renouvellement du savoir-faire qui confine pour moi à l'art. Si on ajoute à ça les dressages qui sont à part entière pour moi quelque chose comme des œuvres d'art, oui, en effet, je pense qu'on peut dire à la fois que c'est un artisanat et un art.
Il y a l'art des dressages, il y a l'art de photographier les plats aussi. À ça, j'ai trouvé, François-Régis, dans votre livre, que les photos sont sublimes.
Merci.
Non, mais elles sont simples. C'est que des très gros plans.
Oui.
Mais c'est formidable.
En fait, je voulais que ces photos ressemblent au plat tel que je les prépare à la maison, avec cette espèce de sobriété.
Je comprends cette pourquoi votre femme vous laisse cuisiner.
Cette imperfection aussi. Les premières photos qu'on a faites, mon éditrice me dit « Oh là là, mais attends, faut nettoyer un peu le bord de la cocotte, là, c'est un petit peu cramé, c'est cramouillé. » Je lui dis « Mais au contraire, laissons comme ça. »
La ratatouille, ça se mange cramouillé ?
Ben, par exemple. Et souvent d'ailleurs, c'est pas forcément toujours des recettes très photogéniques, parce que ma grand-mère et ma mère poussaient en général les cuissons en partant du principe que la cuisson, c'est ce qui réduit, c'est ce qui concentre les saveurs. Et c'est vrai qu'une ratatouille qui est poussée dans le compotage est bien meilleure qu'une ratatouille qui a cuit un temps trop court.
Mais ça, c'est aussi une question philosophique, le temps.
Bien sûr.
Le temps, mais le temps, c'est toute la cuisine. Je dis souvent, c'est un bon mot, mais je crois que c'est un mot qui pense, je dis que l'art d'aimer, M-E-T-S, est un art d'aimer. Et que je crois que quand on aime quelqu'un, on lui fait à manger. Et lui faire à manger, c'est passer du temps derrière les fourneaux. Je crois que quand on est invité quelqu'un et qu'il sort quelque chose de tout près qu'il a acheté au supermarché, je me sentirai pas très aimé par la personne qui m'invite. Si je sens les effluves d'un plat qu'il a mijoté toute l'après-midi, je me sentirai très ami avec celui qui m'invite.
Alors une figure que nous devions d'évoquer ici, c'est celle d'Auguste Escoffier.
La gastronomie est aujourd'hui un art reconnu et célébré dans le monde entier. Les chefs qui la pratiquent au plus haut niveau sont devenus de véritables stars. Et si le métissage de multiples cuisines est de plus en plus encouragé, le modèle français reste une référence incontournable et le passage obligé de tout apprentissage. Cette situation semble avoir toujours existé. Mais en réalité, elle est en grande partie l'œuvre d'un petit cuisinier provençal au destin exceptionnel. Pour les chefs du monde entier, Auguste Escoffier est une légende. Et son fantôme bienveillant hante encore aujourd'hui les plus hauts lieux de la gastronomie mondiale.
Escoffier, c'est notre parrain.
Il a passé la cuisine dans une autre ère.
Tout ce que le mot chef évoque aujourd'hui, on le doit en grande partie à Escoffier.
C'est notre bible, c'est notre maître, c'est notre référent.
Pour moi, Escoffier reste un modèle et Escoffier reste vivant dans mon approche culinaire.
Auguste Escoffier a consacré sa vie à installer au cœur de l'époque moderne un rêve très français. Celui d'une cuisine qui se hisserait au rang des beaux-arts et dont les chefs jouirait du prestige et de la liberté de création réservée aux grands artistes.
Reportage donc diffusé sur Public Sénat, c'était en 2022. Donc à la fois tout à l'heure on se demandait si c'était un art ou pas, la cuisine, là la réponse est donnée. Auguste Escoffier, ça reste une légende, Valentin Husson ?
C'est une légende. Et son guide des la Bible des cuisiniers, on pourrait dire. Il a, comment dirais-je, donné toutes les bases de la cuisine actuelle. On ouvre son guide, on a les recettes, comme je le disais tout à l'heure, des fonds, des sauces, de tout ce qui constitue l'attirail et la panoplie du jeune apprenti cuisinier. Alors, il y a eu dans les années 60, François-Régis Gaudry en parlera mieux que moi, mais la nouvelle cuisine, et justement, elle s'est constituée...
Après la nouvelle vague, il y a eu la nouvelle cuisine.
Absolument, elle a déferlé de la même manière.
Et après le nouveau roman d'ailleurs, on était dans la même époque.
Exactement, et elle s'est constituée en référence à Escoffier et aussi en rupture avec Escoffier, puisque aux sauces liées avec un fond à la farine, au beurre, on est arrivé à des sauces beaucoup plus légères, à une cuisine plus allégée. La nouvelle cuisine, c'est un renouvellement de la cuisine d'Escoffier.
Oui, et il n'en reste pas moins que passer la vague de cette nouvelle cuisine dont on a aussi connu un peu les dérives et les caricatures dans les années 90, hein, malgré tout, on voit que Auguste Escoffier survit. Ça a été le grand codificateur de la cuisine française. Il s'est donné pour ambition non seulement de codifier toutes les grandes recettes qui sont encore d'actualité aujourd'hui dans les cuisines du monde entier, quand même, il faut le préciser. Moi, j'ai voyagé beaucoup dans le monde entier, dans des restaurants étoilés où, systématiquement, on trouvait dans la bibliothèque de la cuisine, le guide culinaire d'Escoffier et toute la littérature d'Escoffier, parce que Escoffier a tout simplement signé, presque à jamais je dirais, le solfège que les chefs du monde entier s'approprient pour composer leur propre musique.
Évidemment, il est dans votre bibliothèque, j'imagine.
Oui, il est cher à mon cœur. D'ailleurs, je suis ébloui par sa carrière, ébloui aussi par sa réussite commerciale, parce qu'il s'est quand même associé avec César Ritz, et il a œuvré dans différents hôtels dans le monde. Et Auguste Escoffier est aussi celui qui a inventé et qui a organisé la brigade moderne avec ses chefs de parti, ses sous-chefs, ses pâtissiers. C'est lui qui a, en quelque sorte, rationalisé le travail des cuisiniers des cuisiniers modernes.
Le style et l'homme, disait Buffon, le chef, la figure du chef, elle domine aussi la gastronomie. Valentin Husson.
La figure du chef est extrêmement importante. Elle a pris son essor avec Carême, qui a été le premier à véritablement donner une patte et un style, une signature aux cuisiniers. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de plat signature. Quand on va manger chez Guy Savoy, on va manger une soupe à l'artichaut truffée avec brioche et beurre aux champignons. Donc, on a tous des plats signature. Les grands chefs ont des plats signature.
Le chaud-froid d'œuf d'Alain Passard, dont
le
on parlait tout à l'heure, c'est pareil.
Le chaud-froid d'œuf d'Alain Passard, merveilleux, que je vais faire en amuse-bouche pour le nouvel an. Voilà, il y a des plats signature des chefs, et en effet, ils affirment leur style, ils affirment leur créativité dans leurs assiettes.
La cuisine est devenue une science à un moment donné, François-Régis Gaudry.
Par le biais d'Escoffier, qui a précisément codifié toutes les grandes cuisines, tous les apprêts, les condiments, les sauces.
Mais avec, je pensais plus proche de nous, Ferran Adria, par exemple.
C'est... Oui.
Ça a été aussi dans cette, peut-être dans la veine d'Escoffier, une veine lointaine. Mais...
Alors, Ferran Adria, en effet, a carrément sauté les deux pieds joints dans l'univers de la science, puisqu'il a d'ailleurs été beaucoup influencé par Hervétis, qui était ce physicien chimiste, qui a d'ailleurs aussi travaillé beaucoup avec Pierre Gagnaire. Et il est vrai que Ferran Adria avait une approche assez avant-gardiste, orientée autour des molécules qui composent les ingrédients, en essayant de générer de nouveaux effets, de textures, de goûts. Il a en quelque sorte joué avec la nourriture. On l'a un peu ensuite caricaturé sous les traits d'un apprenti sorcier, mais en utilisant effectivement des connaissances scientifiques.
L'art des vivres, s'intitule votre livre, Valentin Husson. C'est un art d'aimer, en fait, ça vous dit tout à l'heure. Pourquoi des vivres?
J'ai voulu relire un peu l'histoire de la philosophie. Vous savez, la philosophie, elle s'est constituée comme un art de vivre. Elle s'est constituée comme une quête du sens de la vie, mais elle a simplement préféré les nourritures célestes aux nourritures terrestres, et elle nous a dit que le sens de la vie, c'était un sens théorique. J'ai simplement voulu dire que le sens de la vie résidait aussi dans les sens physiologiques, et qu'il y avait une sensualité de la vie que la philosophie oublie souvent.
Et que, oui, voilà, c'est à cause de cette sensualité que les philosophes se sont méfier de ça, tout le bas-ventre est tenu en mésestime.
Ah oui.
Pas pour tout le monde, pas pour Rabelais, par exemple.
Mais
pour Socrate, oui, il ne faut pas lui parler du bas-ventre. Le bas-ventre, c'est véritablement le fait de perdre toute maîtrise. C'est le fait c'est le dérèglement des sens, le grand dérèglement des sens, comme disait Rimbaud. C'est le risque de vivre une vie de débauché et de dépravé. La philosophie, elle invite à la maîtrise de soi. Et oui. Par conséquent, quand on se laisse aller à l'appétit, c'est un tonneau percé. C'est tout de suite excessif, et la philosophie ne peut accepter cette manière de vivre.
C'est dommage de tenir son bas-ventre en si peu d'estime, parce que si vous vous souviendrez certainement de ce livre, Julia Anders, qui est allemande, qui avait écrit Le charme discret de l'intestin, et qui a fait d'ailleurs absolument un tabac, où on voit bien que notre cerveau, il est tout autant là-haut qu'en bas.
Oui, absolument. L'estomac est au cœur de notre vie, et c'est ce que j'ai essayé de rappeler dans ce livre-là. La philosophie, elle a fait primer l'esprit sur le corps, alors qu'en définitive, nous savons très bien que nous sommes un corps avant d'être un esprit.
Oui, mais la cuisine, elle reste périlleuse pour le concept.
Elle reste extrêmement...
C'est ce que vous dites dans
absolument, elle reste extrêmement périlleuse pour le concept philosophique, parce que justement, elle ne permet plus la maîtrise de soi. Quand on est à une table avec des amis, ça peut partir très mal. On a écouté un extrait de La Grande Bouffe, c'est le film par excellence pour montrer que, comment dirais-je, le débordement de l'appétit de vivre peut aller vers les outrances.
Oui. Mais oui. Reste qu'un œuf, ça peut être métaphysique. Vous l'écrivez également.
Un œuf, mais c'est merveilleux, un œuf. Mm-hmm. C'est la chose la plus belle au monde.
Il y a deux mots que vous citez, Valentin, dans votre essai, et qui permet finalement de réconcilier les nourritures célestes et les nourritures terrestres. C'est saveur et savoir. Moi, j'en ai fait un peu une devise professionnelle, parce que ces deux mots sont issus de la même racine latine, du verbe sapere, qui a ce double sens d'appréhender la connaissance avec ses sens, et puis en même temps, de manière plus intellectuelle, d'accéder à une forme de sagesse ou de connaissances, mais là encore, on aurait tort de trop éloigner nos sens de notre cerveau.
Oui, absolument. C'est-à-dire que la philosophie s'est constituée comme un savoir-vivre et elle n'a pas pensé à définir ce savoir-vivre comme une saveur de vivre. Donc c'est quelque chose de très curieux. Vous savez, l'appel des Lumières, dit Kant dans Qu'est-ce que les Lumières, c'est sapereodé, c'est-à-dire au savoir, et j'essaye de, dans le livre de le traduire par au savourer, qu'est-ce que serait qu'une vie qui s'émanciperait davantage par le goût que par la théorie.
Il aimait manger, Kant ?
Eh bien, curieusement, oui, c'est-à-dire qu'on pense que c'est un ascète qui passait davantage de temps à faire de la métaphysique et à faire sa petite promenade.
Tous les jours à la même heure.
Tous les jours à la même heure à Königsberg. Et il recevait à dîner tous les soirs, il recevait des intellectuels, des.
Oui, mais qu'est-ce qu'il leur servait ? Parce que peut-être qu'il ne mangeait
alors,
pas grand-chose.
Alors, on dit qu'il servait. Alors, il y avait toujours du vin. C'était quelqu'un qui buvait au contraire de ce qu'on pense, comme quoi, comme dirait Régis Debray, les docteurs ressemblent peu à leur doctrine. Mais il y avait du vin, il buvait du vin, il mangeait un peu de viande qu'il mâchouillait simplement et qu'il mettait sous son assiette. Il ne l'avalait pas, je crois qu'il y avait de la soupe. Mais c'était quelqu'un qui aimait manger, curieusement.
Alors que paradoxalement, les philosophes sont quand même globalement...
Des ascètes.
Ou des peines à jouir.
Comme vous y allez, sympa. Vous savez que vous êtes quand même dans leur philo, hein, François.
Il y a un essai remarquable que vous connaissez sans doute, qui a été écrit par Michel Onfray, Le ventre des philosophes,
oui.
Et qui raconte effectivement, qui fait un portrait gastronomique de plusieurs philosophes, entre la frugalité de Jean-Jacques Rousseau, la phobie des fruits de mer et des crabes de Sartre, et j'en passe. On est quand même dans un rapport légèrement méfiant, voire réfractaire.
Voire un peu dégoûté.
À la nourriture, oui.
Alors je voudrais qu'on entende la philosophe Corinne Pelluchon. C'était au Forum des Images en 2016.
C'est innocent, parce que c'est un acte innocent où le plaisir s'invite très vite, puisque sauf si je souffre de privations extrêmes, le besoin d'emblée vire en plaisir. Et il y a une sorte de complaisance dans le fait de goûter les choses. Mais en même temps, ce n'est pas innocent, puisque dans cet acte, je confesse la place que j'accorde aux autres humains et aux autres vivants, et je dis si je collabore, donc je suis complice d'un système économique. Donc l'éthique, la politique et l'économique s'invitent à ma table, que je le veuille ou non.
Qu'on le veuille ou non, Valentin Husson, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine ?
Oui, bien sûr. On ne mange pas, si je puis dire, je vais utiliser un grand mot, mais on ne mange pas innocemment. Tout dépend de ce qu'on mange. Alors aujourd'hui, tant mieux, c'est quelque chose qui s'est véritablement étendu dans la société. Je crois que quand on a au moins les moyens, on essaye de privilégier les circuits courts, on essaye d'aller chez le primeur, chez le maraîcher. C'est-à-dire qu'on essaye véritablement de faire attention au rapport qu'on a à l'alimentation, parce qu'on sait que le rapport que nous avons à l'alimentation, c'est un rapport que nous avons à la nature et à l'écologie. Et en ce sens-là, oui, on mange et à la table, comme dit Corinne Pelluchon, à notre table s'invite la politique et l'économie.
Il y a un thème que vous soulevez qui m'a paru très intéressant aussi, c'est la gastrodiplomatie, qui est un soft power, en quelque sorte. Vous racontez cette histoire d'Antoine Carême qui dit, c'était en 1815 au moment du congrès de Vienne, qui dit « Sire, j'ai plus besoin de casseroles que d'instructions écrites ». Donc, et c'est d'ailleurs lui qui a, je crois, Carême, je ne me trompe pas, en disant qu'il a inventé le gâteau, le diplomate.
Oui,
hein, c'est ça.
Absolument. On lui prête aussi d'avoir inventé le vol au vent, d'avoir inventé également la toque, hein, cette fameuse coiffe qu'arborent tous les chefs.
Mais c'est une branche de la diplomatie, la gastronomie.
C'est une branche de la diplomatie. On pourrait même dire que c'est la France qui invente la gastrodiplomatie. Aujourd'hui, elle est très largement étendue. La Thaïlande est un modèle du genre. Il faut savoir que la Thaïlande a des programmes de financement d'implantation de sa gastronomie à l'étranger.
Notamment aux États-Unis.
Notamment aux États-Unis. Et elle a triplé le nombre de touristes qu'elle reçoit chaque année. Elle est passée de 10 millions de touristes à 40 millions de touristes grâce à sa gastrodiplomatie.
Et c'est tant mieux.
Et quand vous imaginez quand même qu'en France, lorsqu'on organise en 2015 le repas de la COP21 qui détient ce record d'avoir rassemblé autour d'une même table, c'était au Bourget, 157 chefs d'État, autour d'un menu un peu à la gloire de tous les terroirs de France, il y avait d'ailleurs eu un souci de représenter de manière très diplomatique toutes les régions de France dans ce menu. On sait que cette COP21 a abouti à un résultat très concret en termes d'avancée concernant la protection de l'environnement. Évidemment, on se dit que la gastronomie pour la France et pour d'autres pays est un véritable soft power.
Alors, il y a le contre-exemple, c'est ce que vous donnez, Valentin Husson, c'est, je crois que Barack Obama, il y a quelques années, et Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qui déjeunent ensemble, ça prend 15 minutes.
15 minutes, absolument. Il y a des chefs
d'État. Mais qu'est-ce que ça a donné? On sait pas.
On ne sait pas, ça restera dans les secrets des dieux, mais oui.
Il n'aimait pas manger, ni l'un ni l'autre. Bad Bad No Good et Tim Bernadès, Poira Cosmica sur France Inter. Gilles Deleuze, extrait de son abécédaire, A comme alcoolique.
Ah oui, j'ai beaucoup bu ça, j'ai beaucoup bu. J'ai arrêté donc, j'ai beaucoup bu. Qu'est-ce que c'était? C'est pas difficile, moi je crois, il faudrait interroger d'autres gens qui ont beaucoup bu. Il faudrait interroger des alcooliques, tout ça. Je crois que boire, c'est l'affaire de quantité. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'équivalent avec la nourriture. Même il y a des gros mangeurs, il y a des gens à moi manger, ça m'a toujours dégoûté, alors c'est pas mon affaire. Mais la boisson, c'est une question. J'entends bien qu'on ne boit pas n'importe quoi, que chaque buveur a sa boisson favorite. Mais c'est parce que c'est dans ce cadre-là qu'il saisit la quantité. Cette affaire de quantité, ça veut dire quoi? On se moque beaucoup des drogués ou des alcooliques. Parce qu'ils ne cessent pas de dire, oh, vous savez, moi je maîtrise, j'arrête de boire quand je veux. On se moque d'eux, mais c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Moi j'ai des souvenirs très nets, je voyais très bien ça, et je crois que tous les gens qui boivent comprennent ça. Quand on boit, ce à quoi on veut arriver, c'est au dernier verre. Boire, c'est à la lettre. C'est tout faire pour accéder au dernier verre. C'est ça qui vous intéresse.
Alors on a commencé l'émission avec la grande bouffe et on finit avec Gilles Deleuze. Point trop n'en faut, Valentin Husson.
Point trop n'en faut, disait Socrate, mais Deleuze analyse extrêmement bien là ce que ça signifie que boire pour un alcoolique. Il ajoute à la suite de cet extrait qu'il n'y a rien de plus joyeux qu'une compagnie d'alcooliques qui dit « allez, encore un dernier pour la route ». Et c'est vrai que quand on est au zinc d'un bistrot, la compagnie de copains qui dit « encore un dernier pour la route », c'est peut-être pas le dernier, mais en tous les cas, c'est celui qui nous poussera jusqu'à nos dernières limites pour atteindre cette ivresse
que l'on cherche. Mais justement, c'est ça. Le bon vivant, c'est celui qui cherche la limite.
Le bon vivant, c'est celui qui cherche la limite pour pouvoir remonter sur sa monture le lendemain qu'il l'a fait tomber la veille. Donc, il y a quelque chose de ça chez le bon vivant. Il faut, encore une fois, ne pas tomber dans la figure du jouisseur qui, lui, comme le tonneau des Danaïdes, va trop loin et peine le lendemain à pouvoir s'en relever.
Pour ce qui est de la boisson, François-Régis Gaudry, j'entends par là le vin, les alcools, vous dites que vous êtes un amoureux des vins, mais un dilettante éclairé. C'est-à-dire qu'au fond, vous les avez appris, ces vins.
Je les ai appris, mais ce que j'aime en plus dans mon travail, c'est peut-être bien mettre un visage et mettre aussi des paysages derrière une bouteille que j'aime. Mon métier, il n'est pas celui d'être chroniqueur vin. Je suis très bien entouré dans mon émission On va déguster de gens dont c'est véritablement le métier, de courir la vigne, d'assister à des dégustations, de parfois s'avaler et recracher évidemment une centaine de champagnes en une journée. C'est un vrai métier. J'ai pas le temps de le pratiquer, ce métier-là, puisque je suis d'abord critique gastronomique, mais j'appréhende le vin avec beaucoup de curiosité, et j'aime évidemment l'idée qu'un vin puisse cristalliser un terroir, qui est pour moi cette magnifique histoire d'amour entre un vigneron ou une vigneronne, un sol, un climat, et évidemment une plante. Et puis on ajoute à cela un savoir-faire humain, des méthodes culturales, des méthodes de vinification dans le chai, etc.
C'est pour ça, Valentin Husson, qu'on ne boit pas cul sec un verre, par exemple, de Châteauneuf-du-Pape, comme dans cette histoire que vous racontez, où c'est Talleyrand un jour qui voit un convive le faire et qui est absolument outré.
Ah oui, cette merveilleuse histoire, il est avec Fouché. Et vous savez que Talleyrand était propriétaire des vignes de Aubrion, dans le Bordelais. Et il voit Fouché, en effet, boire comme un boisson soif, si je puis dire. Il envoie des verres de Bordeaux et Talleyrand lui dit « Mon cher monsieur, ce n'est pas ainsi qu'on boit. On porte le verre à son nez, on lui donne une rotation, on le pose et on en parle. » Vous voyez, il n'y a même pas besoin de le goûter. Il faut en parler avant même de le déguster.
C'est ce qu'on fait dans votre émission, François-Régis.
Oui, et puis c'est souvent, le bon vin est souvent une affaire de qualité, plus de quantité. Vous savez, on dit souvent, je crois que c'est Henri Bergson, le philosophe qui faisait la distinction entre la durée et le temps. Mmh. Et c'est vrai que quand on boit un très grand vin, c'est la durée, c'est le temps qui est chronométré, qui est mesurable, qui est très objectif. Ce sont des secondes, des heures, des minutes. Alors que le temps, justement, peut donner, comme ça peut s'allonger, c'est plus subjectif. Et lorsqu'on boit un grand vin, on a précisément l'impression de tutoyer l'éternité, parce que le temps s'allonge à l'image de la persistance du vin en bouche.
Et c'est presque un cérémonial que de boire un bon vin ou que de manger un bon plat. Est-ce que vous avez déjà, Valentin Husson, essayé les recettes de François-Régis Gaudry?
Bien sûr.
Ah ben,
Non seulement je les ai essayées, mais mes amis les ont essayées. Ils en ont été extrêmement réjouis. Ouf. C'est un succès à chaque fois. Je connaissais son émission qu'il a commencé pendant le Covid.
Exactement.
Où il donnait ses recettes. On en retrouve quelques-unes dans cet ouvrage.
Là, c'était filmé.
Oui, ça, c'était
filmé. C'est votre sœur, François-Régis, qui vous filmait?
Oui, j'ai fait pendant le confinement ce qu'on pourrait appeler mon cooking out. J'ai commencé à faire visiter mon jardin secret peuplé de recettes que je cachais jusqu'à maintenant. Que je cachais jusqu'alors. Et c'est vrai que c'est pendant le confinement, un peu d'ailleurs poussé par la direction de France Inter, que j'ai commencé à faire mes recettes de famille devant le téléphone portable de ma sœur.
Et c'est comme ça que vous êtes devenu adepte, Valentin Husson?
Absolument, absolument. Pendant le Covid, moi j'ai passé mon temps à cuisiner. En cherchant sur Internet, je suis tombé sur les recettes de François-Régis Gaudry. Et c'est des recettes extrêmement conviviales, extrêmement gourmandes et extrêmement simple à faire. Donc véritablement, et on les retrouve dans ce livre-là, recettes et récits, donc moi je les conseille vivement. Ce n'est pas des recettes qui vont demander des heures de préparation, c'est quelque chose que l'on peut faire avec ses amis qui arrivent le soir au dernier moment.
Et moi, je suis très contente parce que vous avez voulu me coller un jour dans le couloir. Ah, tu vas voir, tu vas lire la recette du vitelletonné. Ben, c'était presque ça. Simplement, je ne faisais pas mariner ma viande la veille. Ah. Vous voyez que je ne suis pas si nulle que ça. Merci beaucoup, messieurs. Valentin Husson, L'art des vivres, une philosophie du goût publiée au PUF, donc aux Presses universitaires de France. Et vous, François-Régis Gaudry, recettes et récits. Les meilleures recettes sont celles qui se partagent. C'est chez Marabout. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités.
Un grand merci, Patricia.
Merci à vous.